Sport Campus, 13h-14h, avec Alain, Nicolas, Joris, présenté par Mélissa.
À toutes et à tous, il est 13h et vous écoutez Sport Campus. On est mercredi, on est en direct et comme tous les mercredis, on retrouve votre émission 100% sport pendant une heure et tout de suite on retrouve la fidèle équipe avec Alain. Salut Alain.
Salut.
Tu vas nickel aujourd'hui.
J'allais le dire.
Et on retrouve ici Nicolas. Salut Nicolas.
Salut.
Et Louis. Bonjour Louis.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler de foot et notamment des Girondins avec notre invité du jour. Il s'agit de Julien B. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va très bien, merci. Merci de l'invitation.
Alors, vous êtes une sorte d'historien des Girondins. On va aborder tout ça tout au long de l'émission et de l'interview. Et je te laisse la parole, Alain.
Ouais, mais depuis le début des thématiques que j'ai voulu faire sur Radio Campus, on a eu des sportifs, on a eu pas mal de choses, on a eu des confidences, des informations, la découverte, le nouveau sport. Et là, pour le dernier mercredi, je crois que j'ai tapé fort puisque c'est l'élève qui va passer devant le maître au micro. Quoi. J'ai voulu inviter Julien B. Julien B, c'est quand même plus de 500 matchs commentés, c'est ça ?
J'ai dit 570 bientôt.
570 matchs commentés pour les Girondins de Bordeaux. C'est 4 gros bouquins, on en parlera en deuxième partie. Mm-hmm. Alors, on a voulu en savoir un petit peu plus parce que quand on me parle de Julien B, je me dis c'est la Bible des Girondins. En fait, c'est ça quoi. C'est ce qu'on peut ressentir en te parlant. Quoi.
C'est gentil, ouais, c'est beaucoup de travail, c'est 10 ans de recherche quasiment jour et nuit, puisque ça a été pendant 10 ans, ça a été mon quotidien de rechercher, de retrouver, de recréer les archives des Girondins de Bordeaux, parce qu'il y a eu beaucoup d'archives qui ont été détruites, notamment dans les années 80, donc le but était d'aider le club à retrouver ses archives et puis de sortir ses livres.
Et tu l'es marquant, alors, ton activité radio, ton activité sportive, enfin, dans les milieux de la recherche sportive, je veux dire. Hein.
De journalisme, tu veux dire ?
Oui, c'est ça.
Alors, dans le journalisme, en fait, ça démarre très jeune, puisque début des années 2000, je suis au lycée, et moi, je rêve que d'une chose, c'est être journaliste sportif. Le problème, c'est que je suis un peu soupaulé, notamment au lycée. Quoi. Enfin, je suis pas très fan de l'école, je m'ennuie un petit peu au lycée. Pourtant, chez moi, j'écris, je suis plutôt pas mal en français et j'écris sur des livres d'histoire de foot, des histoires de Girondins, etc. Et en fait, j'ai beau dire que je veux faire ça, on me dit clairement, on me met un stop, on me dit non, mais à l'école, il faut que tu aies des meilleures notes, etc. Je me suis dit ok, je vais trouver une autre solution en fait. Et il se trouve qu'un ami à moi, qui s'appelle Steve, si jamais il écoute cette émission, je le salue, son père a un groupe de presse, donc c'est facile, il a un groupe de presse sur le bassin d'Arcachon, il avait un groupe de presse, il est à la retraite maintenant, en fait il m'a fait rentrer en tant qu'apprenti dans ce groupe de presse pour devenir rédacteur graphiste. Alors il se trouve que rédacteur graphiste, j'ai été formé en étant graphiste, mais dans un groupe de presse, un rédacteur graphiste a le droit à la carte de presse. Donc j'ai fait cette formation de rédacteur graphiste, ça a duré 4 ans. Et une fois que les 4 ans sont passés, comme j'étais pas trop mal apparemment, ils m'ont gardé. Et donc, je suis resté 20 ans dans cette société. Et pendant 20 ans, j'ai eu la carte de presse. Et j'avais donc toujours cette envie de faire de commentaires sportifs. C'est ça, ma passion. Et donc, j'ai rencontré plusieurs personnes autour des Girondins de Bordeaux, puisque j'étais fan, j'étais supporter. J'allais au stade, j'allais au Parc Lescure. J'allais soutenir le club. C'est ma passion aussi, les Girondins. Moi, pour moi, il n'avait rien d'autre que d'être commentateur des Girondins. Pour moi, c'était l'aboutissement.
Que des Girondins.
Que des Girondins. Pour moi, l'aboutissement, c'était commentateur des Girondins. Voilà. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais Alain Boudron qui faisait, faisait les matchs, voilà, qui était sur 8FM à l'époque. Et donc, je voulais être Alain, quoi. Voilà, tout simplement, c'était mon rêve. Et donc, j'ai rencontré plusieurs personnalités. Mais c'est vrai que quand on n'est pas du sérail, entre guillemets, on vous ferme les portes. Donc, il a fallu un petit peu encore prendre une porte dérobée et j'ai rencontré Romain qui a créé le site de supporters girondinforever.com et avec lui, on a décidé de créer une petite web radio qui s'appelait Fréquence Girondin à l'époque, donc c'était en 2006. Et on a été les premiers, en fait, de l'histoire, on peut dire, je pense, en France, à commenter des matchs via une Wi-Fi. Alors, la Wi-Fi du Parc Lescure était dégueulasse. Mais on a réussi quand même à commenter ce premier match. C'était donc en 2007. J'ai commenté Bordeaux-Lens. Ça a été mon premier match commenté sur une petite radio, donc une petite web radio. Puis ça a bien fonctionné. Et du coup, ça a attiré un petit peu l'œil des médias locaux, et notamment Jocelyn, qui est aujourd'hui toujours d'ailleurs le patron d'une radio qui s'appelait une radio associative qui s'appelait TRG, qui aujourd'hui s'appelle Enjoy 33. Et Jocelyn m'a dit « Moi, j'aimerais bien que tous les deux, on essaye de faire les Girondins. » Donc, j'ai fait les Girondins. Ça a duré 2 ans. Et puis ensuite, c'est Gold FM, qui était la radio du club, qui est venu me chercher justement la boucle est bouclée parce qu'on voulait un petit peu remplacer Alain Baudron. Qui était sur Gold FM. Donc au départ, j'ai fait de l'animation avec lui. J'animais les soirées foot. Et puis au fur et à mesure, Frédéric Cortine, qui était le patron de la radio, m'a permis d'abord de commenter les matchs à l'extérieur, puis les matchs à l'extérieur et les matchs de coupe. Et puis il y a 6 ans, il m'a dit « Voilà, maintenant c'est ton tour, c'est toi qui prends le flambeau. » Et voilà, depuis 6 ans, maintenant je commente les matchs entièrement des Girondins.
Extérieur et
domicile, tous les matchs, quoi, voilà, tous les matchs.
D'accord, et donc tu t'es déplacé dans tous les recoins de France
J'ai vu tous les recoins de France, voilà, ça s'est un petit peu arrêté à cause de la pandémie, parce que, en fait, les assurances, à cause de la pandémie, t'es pas très fan qu'on poursuive les déplacements. Donc maintenant, on alterne, on fait, quand il y a des gros déplacements, je peux y aller, mais sinon, je commente souvent en studio ou depuis un bureau, voilà. Mais j'ai fait tous les coins de France et même d'Europe, hein, je suis parti... jusqu'à Chypre avec les Girondins, je fais beaucoup de choses, ouais.
T'as cité Romain de Girondin Forever, s'il nous entend, je voudrais juste lui dire qu'il revoie son site, quoi. C'est illisible. Ah. C'est bête parce que c'est plein de bonnes informations et c'est pourri de publicité.
Eh oui.
Et on lui envoie des messages, mais il n'en tient pas compte, ça devient
illisible. Oui, oui.
Voilà, c'était juste...
c'est un petit aparté.
C'est l'instant coup de gueule.
Le petit coup de gueule, ouais.
Voilà. Non, mais c'est vrai parce que c'est un truc, on sait des choses sur les Girondins, sur tout ce qui se passe autour, mais pas que les Girondins en plus. Hein. Et quand on veut l'ouvrir sur un téléphone, c'est pas possible.
C'est beaucoup de pubs. Bon, après, voilà, ça leur permet d'acheter les serveurs, ça leur permet de... Parce qu'ils y passent leur vie, hein, dessus, et notamment Romain, que je connais bien. Je sais qu'il passe sa vie dessus jusqu'à 3h du matin. Bon, ça leur permet de se sortir un petit salaire pour continuer. Mais c'est vrai qu'à la lecture, c'est pas évident. Mais je sais aussi l'envers du décor, puisque je connais bien Romain. Il m'en parle et je lui dis, moi aussi, je peux pas ouvrir ton site avec ta pub là. Et il me dit, bon, bah, voilà, je sais que ça leur permet de faire vivre le site aussi.
Alors, comment on passe de l'écrit à l'oral ?
Alors moi, là, c'est l'inverse, en fait, que j'ai fait. J'ai fait l'oral à l'écrit. Parce que quand je suis devenu rédacteur graphiste, j'aidais à la relecture, je faisais la mise en page, mais je n'écrivais pas. Donc en fait, finalement, en termes de journaliste, j'ai commencé par l'oral, en commentant les matchs, et ensuite, je suis passé à l'écrit pour faire les livres, écrire les bouquins sur les Girondins. Voilà,
là, à côté de toi, tu as Louis qui rêve d'être un commentateur sportif. Ouais. On est en 2022.
Ouais.
Toi, tu démarres en 2007, hein?
Ouais.
L'évolution du métier, ça se passe comment? Louis veut faire commentateur sportif, il passe comment?
Alors l'évolution du métier fait qu'aujourd'hui, l'arrivée des web radios, d'internet, fait qu'il y a finalement, pour moi en tout cas, il y a un petit peu plus de place, mais ça va être la qualité qui va primer. Donc il va falloir trouver une web radio ou une radio qui permette d'avoir un auditoire assez important, ça c'est sûr, mais c'est vrai que ça a été un mal pour un bien, enfin moi c'est mon point de vue, c'est-à-dire que ça a permis et ça permet à plein de gens qui rêvent de faire ce métier de se lancer, parce qu'on peut même créer nous-mêmes une web radio maintenant, hein. Il y a des sites qui permettent de créer une web radio, on peut créer une web radio où on commande des matchs si on veut, c'est très simple, mais c'est vrai que d'un côté, ça, je mets beaucoup de guillemets, mais ça tue un petit peu le métier des professionnels, parce qu'aujourd'hui n'importe qui peut créer une radio, n'importe qui peut devenir votre concurrent en fait, donc c'est très difficile. Maintenant moi, enfin, je veux dire à Louis de croire en ses rêves, hein, je veux dire, s'il y en a bien un qui peut dire voilà, moi je suis passé par des chemins vraiment sinueux pour arriver jusque là, donc il faut y croire, faut croire en ses rêves. Quand j'étais au lycée, que je disais sur les petits papiers du début d'année je veux devenir journaliste sportif et que les profs me riaient au nez, je veux dire à un moment donné il faut continuer, il faut y croire. Et j'y ai cru et j'y suis arrivé.
Moi, c'est notamment mon entourage qui me dit d'essayer de toujours chercher un plan B parce qu'ils me disent « Ouais, est-ce que tu vas bien gagner ta vie avec ça? Est-ce que c'est une bonne idée ?» J'essaie de leur expliquer que c'est quelque chose que je veux faire, c'est ma passion. Mais c'est compliqué de contre-argumenter dans le sens où, effectivement, ça peut être parfois un peu instable en termes de métier, etc.
Oui, oui.
On n'est pas sûr d'avoir une place permanente, on n'est pas sûr d'être là la saison suivante. il y a toujours cette espèce de pression, mais moi je me dis que je vais donner tout mon possible pour y arriver, même si c'est passé par des chemins de traverse les plus improbables possibles, je me dis que je peux le faire. Après maintenant c'est par où passer et aussi cette question de faut pas louper le train au bon moment, au bon endroit.
Ouais, c'est pas évident, et c'est vrai que le fait que j'ai ce parcours atypique, j'ai eu de la chance aussi, faut pas minimiser ça. Je pense que si j'ai réussi, c'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes, et je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à aller toquer aux portes en fait. Et
c'est pour ça que je suis là d'ailleurs.
À un moment donné, il faut aller voir les gens, il faut leur dire, alors il y a des gens qui pourront peut-être rien faire pour vous, qui forcément vous diront non, t'as pas le niveau. Mais je pense que aujourd'hui en plus, l'arrivée des réseaux sociaux permet de toucher des gens qu'on n'aurait jamais touché il y a des années.
Ouais.
Je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez très bien envoyer un message à un footballeur connu, je parle de la partie que je connais, peut-être qu'il vous répondra pas, mais peut-être qu'il aura vu le message. Ça, je veux dire, ça, il y a 20 ans, c'était impossible de toucher un joueur, de toucher une personnalité. Aujourd'hui, on peut. Donc, il faut se servir de ça. Donc, peut-être toucher... il faut chercher. Moi, j'ai souvent cherché les patrons de radio. Il faut les chercher sur les réseaux, essayer de leur envoyer des messages, retrouver leurs mails, essayer de... sans les harceler, parce que bon, ils sont pas fans de ça, mais envoyer des CV et à un moment donné, il y en a peut-être sur une centaine de messages, il y en a un qui va tilter, qui va dire ok, moi je vais te donner ta chance.
Ouais, c'est ce qui se passe moi pour mes invités. Je passe par je l'aimais, je le connaissais pas, hein. On s'est connus par rapport aux réseaux sociaux, et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, comment j'aurais pu inviter Julien B, je ne sais pas. Donc lui, c'est ce qu'il dit, ce que dit Julien, c'est vrai. Il n'y a pas d'école particulière pour être commentateur. C'est vraiment le voilà.
En plus, le métier de commentateur est on se forme tout seul en fait, c'est très compliqué. Il n'y a pas un gars, vous n'allez pas vous lancer à commenter un match, il n'y a pas un gars à côté de toi qui dit non, ça tu dis pas, ça, faut y aller. Faut évidemment, c'est au fur et à mesure, ça vient. Alors moi j'avais la chance, c'est vrai, notamment dans la partie où quand je suis arrivé à Gold FM, il y avait Alain Baudron. Donc Alain de temps en temps me faisait des retours en me disant attention là, tu commentes trop vite, on comprend rien. Attention là, prends des temps, n'oublie pas de rappeler le score, n'oublie pas de. Bon, c'est vrai que ça permet de s'enrichir aussi, parce que le vocabulaire est important. Faut savoir varier les mots. Il y a un ton, il faut avoir un ton. Faut savoir à un moment donné baisser le rythme si le match, il se passe rien. Il ne faut pas non plus tout le temps être au taquet, parce c'est que ça. Sinon les spectateurs ou les auditeurs pensent que le match est extraordinaire alors qu'il ne se passe pas grand chose.
Il faut la passe à 10, c'est ça.
Style Omar d'un Fonseca, quoi.
Lui il le fait bien.
C'est encore autre chose. C'est un consultant, donc lui il peut se permettre ça.
Et il y a un aspect au niveau des commentateurs, parce que moi j'ai eu dans mes activités professionnelles la chance de travailler pour FR3, et je partais à la mi-temps des matchs à l'époque. À la mi-temps, en moto, on portait vite à FR3, portait des cassettes, on revenait à la fin. Et donc j'étais avec tous les commentateurs, et il y a un aspect théâtral. Je les regardais derrière, les mecs de radio, mais les mecs ils s'y prennent, c'est un truc de fou, quoi. Ils ont une passion, ils sont
Omar de la Fonseca,
ils se battent avec leur micro, quoi, en fait. On va dire, ils se battent avec leur micro. C'est vrai qu'à l'époque, les Girondins ont vibré, parce que je parle de ça il y a 20 ans, maintenant c'est un peu plus compliqué. Mais je ne critique pas. Mais c'est vrai que si tu n'as pas la passion du sport, tu ne peux pas l'improviser. Quoi. Tu vois, tout à l'heure, un enfant me parlait, je lui parlais d'autres sports, d'autres sportifs. Mais Julien était honnête, il m'a dit je ne connais pas. Parce que Julien, il a une passion, c'est le football. Je suis sûr que si on te fait commenter du basket ou du rugby, peut-être le rugby.
Le rugby, ça passerait, le basket, non. C'est pas...
Alors que c'est le même boulot.
C'est à peu près la même chose, mais il faut la connaissance des règles, il faut la connaissance des joueurs, leurs statistiques. Le basket, c'est, parce que justement j'en pratique, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il y a les stats sur la saison, les stats sur une série de matchs, il y a plusieurs statistiques à prendre en compte. Et c'est vrai que sur une confrontation, je dis une bêtise, par exemple si on prend confrontation entre Los Angeles et Milwaukee, il faut bien regarder qui seront titulaires, qui seront sur le banc, les rotations, etc. Il y a vraiment beaucoup plus de statistiques que pour le foot par exemple ou pour le rugby.
Mais déjà, ça bouge beaucoup plus, ce basket, en termes de changement, termes de...
Oui, non, mais
le
surtout,
rythme est différent.
Les titulaires peuvent très bien partir 10 minutes et revenir sur un autre carton, etc. Et il y a le contrôle du temps aussi, qui est très important. Donc, c'est clair que c'est encore un autre truc.
Là, tu parles de stats, justement, toi, le commentateur sportif qui a débuté en 2007. Toutes ces stats qu'on voit passer, là, le temps de jeu, le si, le cas, mais ça te fait penser à quoi, ça passe... Moi, personnellement, ça m'énerve.
Je vais être honnête, souvent, on me demande ça. Alors, moi, j'ai décidé, en fait, il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter de me gaver de stats.
Voilà.
J'ai arrêté parce que le métier de radio, c'est un métier où les gens n'ont pas d'image. Donc ça veut dire que 100% de votre temps, vous devez le passer à commenter ce qui se passe, à commenter ce qui se déroule. Quelqu'un qui est à la télé, les gens ont l'image, Donc vous avez la possibilité de raconter, ah oui, alors Kylian Mbappé, il y a son frère Ethan qui joue. Et ben je...
C'est ça.
Quand vous êtes en radio, et j'ai remarqué ça, on n'a pas le temps. Les gens dire oui, alors il a marqué 7 buts, il a fait 3 passes décisives. Oui, de temps en temps, c'est bien de le rappeler. Mais sinon, dans le match en lui-même, non. Les gens veulent savoir où est le ballon parce qu'à la radio, ils sont censés ne pas avoir l'image. Voilà. Donc j'ai arrêté de me gaver de stats.
Rafraîchis-moi la mémoire, mais en 2007, cette histoire de passes décisives, on en parlait ?
Non. Moi, ça me disait rien. Non. Voilà. Non.
Pour ceux qui connaissent le foot, un mec qui tire un corner, il y a but, on compte une passe décisive. Je suis désolé, c'est pas une passe décisive.
C'est un arrêt.
Quand on dit qu'Antoine Griezmann, le match de l'équipe de France, dans les matchs de l'équipe de France, quand Tchouaméni marque, on dit qu'il fait une passe décisive. Non.
Je
dis
autant la deuxième, oui.
Autant la deuxième, oui, mais pas
la
première.
Pour moi, la deuxième, oui, mais pour la première, non.
C'est... Donc, toutes ces stats, mais vous, au niveau comme tu as dit, c'est pas la télé, donc les gens n'auront pas. Il faut que tu arrives à leur faire deviner ces stats, parce que le mec derrière la radio, il est comme le gars derrière la télé, il est friand de ça. Il veut savoir.
Mais de temps en temps, j'en donne. Ou alors, quand il y a un but, par exemple, si Madja marque, je vais crier Madja marque, c'est son 7e but de la saison. Ça m'arrive de dire, ah, c'était son 3e du pied gauche. Mais sinon, point, quoi. Je vais pas dire, tiens, mais juste avant, c'était... parce que maintenant, on parle aussi de l'avant-dernière passe.
Oui,
moi, j'ai entendu dire, on parle de l'avant-dernière passe. Parce que soi-disant, ça peut être l'avant-dernière passe qui casse une ligne, donc là, après, il y a une passe décisive. Donc, non,
ou celui qui a bougé sans ballon, qui a permis...
Ouais, voilà. Non, mais aller jusque-là, c'est vraiment décrire... Genre, les 10 joueurs ont fait une passe décisive, quoi, concrètement.
Oui, mais les coachs sont friands de ça. On voit l'équipe du Maroc actuellement. L'équipe du Maroc, c'est l'équipe à la Coupe du Monde qui a le moins de possession du ballon. À l'arrivée, ils sont demi-finale.
Le coach. Ça
à l'arrivée, c'est en demi-finale. Ouais. Donc j'ai écouté Regragui hier qui parlait, il disait que lui, il s'en foutait de tout ça.
Bah oui. Les expected goals, etc., il en parlait, lui, il n'en a rien à faire.
Hein. Bah, le contraire de ce qui se passe, c'est l'Espagne, voilà, qui a été l'équipe qui a eu le plus le ballon, puis ils sont partis assez vite.
Ouais, et visiblement, ils sont déjà en train de reprendre leur tapas.
Je vois la passe à 10, ça fait des années.
C'est ça. Ouais.
Donc quand on est commentateur sportif, que pour les Girondins de Bordeaux, tu aimes le foot ? T'as pratiqué le foot avant ?
Bien sûr, oui, pendant 11 ans, à l'Eche Cap Ferré.
D'accord, t'es l'enfant du bassin d'Arès, je crois, c'est ça.
Exactement.
Mais quand on a juste un cœur, toi, t'as un club de cœur, c'est les Girondins.
Ouais.
Est-ce que tu te sentirais capable d'aller, on te dit, voilà, demain, je sais pas, on t'envoie à Lyon, commenter, on l'a s'appelle et te dit, voilà.
Il se trouve qu'il y a 3 ans, j'ai été appelé et par beIN Sport et par Canal+, pour pouvoir aller commenter, et j'ai refusé. Alors ça, quand je dis ça, tout le monde me dit, ah, pourquoi et tout. Alors, deux raisons. La première, pour moi, clairement, ce que je fais aujourd'hui, c'est l'aboutissement. C'est-à-dire aujourd'hui, je commente les matchs de mon club de cœur. Les gens me reconnaissent pour ça. Et puis, les Girondins, pour moi, c'est ma vie. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une question de vie personnelle. C'est-à-dire que quand on est amené à commenter des matchs pour beIN Sport ou Canal+, aller à la télé, bah, il faut forcément aller vivre sur Paris. Et moi, j'ai un ami à moi, vous connaissez peut-être, c'est un gars d'ici, il s'appelle Eric Barrère, qui commente sur beIN Sport. Bon, bah, Eric, il est en fait 4 ou 5 jours dans la semaine, il est sur Paris. Il revient 3 jours ici, en week-end chez lui. Enfin, c'est pas une vie pour moi. Voilà, alors moi, je suis un enfant du bassin, comme tu disais, Alain. Mon fils a grandi sur le bassin. J'ai cette qualité de vie que je veux garder. Voilà, donc pour moi, aujourd'hui, outre l'argent, outre le fait d'aller commenter des matchs de Ligue des Champions, que j'ai déjà d'ailleurs commenté avec les Girondins, puisqu'en 2009-2010, j'ai commenté des matchs de Ligue des Champions. Ça me fait pas rêver, en fait. Voilà. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est mon aboutissement.
Moi, l'aboutissement, ce serait ça. Ce serait de commenter un match sur beIN Sport ou ce genre de choses, parce au-delà de l'aspect mainstream ou... au-delà de cet aspect de c'est beIN Sport, c'est la grande chaîne de sport, etc., c'est juste, moi, personnellement, de me dire, j'en suis là. J'ai réussi à être là où on est. Et c'est pour ça que
vois ça
que vous
pour toi,
Bordeaux,
moi, c'est les Girondins.
Et ça, ce que vous dites par rapport au Girondins, c'est super.
Pour avoir connu Alain Baudron, parce qu'il était au Grand Parc à l'époque, quand il était chez WTFM, sa fille était en classe avec mon fils. J'ai vu l'évolution d'Alain Baudron. Et bon, c'est vrai que maintenant, il est au top niveau. Et ce que tu es en train de dire, c'est peut-être vrai. Il a peut-être un petit peu laissé ce qu'il était au départ pour justement gravir les échelons. Maintenant, il fait du Canal+, il fait du beIN Sport, il fait un peu de tout. Toi, tu privilégies vraiment ton bassin, ton repos après tes matchs. Mais tu vis de ça, du commentateur, ou tu fais autre chose à côté ?
Non, je fais autre chose à côté. J'ai une société. J'ai une société d'édition et de... mon dernier livre est édité par ma société d'édition. Et donc, je fais ça au quotidien. En fait, j'allie les deux. Parce que ma société... je travaillais donc pendant 20 ans pour le groupe de presse Michel Hommel. quand cette société a été liquidée, j'ai été donc licencié. Mais en même temps, les magazines pour lesquels je travaillais ont été rachetés et j'ai réussi à négocier avec les racheteurs pour être intégré via une société que je créais pour pouvoir continuer à faire ces magazines. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Je continue à faire ces magazines et en même temps, je fais de l'édition. Donc ça, c'est mon travail, on peut dire, quotidien. Et derrière, je commente les matchs et je m'occupe des Girondins et je fais les livres. Et... Ouais, j'ai des journées chargées, ça.
Mais
c'est vrai.
La radio, ce n'est pas les bénévoles que tu fais, c'est...
Ah non, 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 ah, non, 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 c'est payé. C'est payé. Mais c'est, on va dire, les 50-50 à peu près, ou 60-40 avec la maison d'édition.
Et quel regard vous portez aujourd'hui sur le journalisme sportif où on voit souvent dans le milieu du sport où très facilement on a tendance à la critique, à beaucoup acculer les joueurs, les coachs en général. En fait, en France, on a l'impression que dès qu'il y a une défaite, c'est la fin du monde. Et il y a un peu ce regard tout le temps négatif à travers le sport qui est très présent, je trouve, dans le milieu journalistique.
Alors moi, je vais faire un peu mon vieux, si je puis dire, mais... Je trouve qu'aujourd'hui, le journalisme sportif est devenu un journalisme putaclic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Sensationnel.
Sensationnel, buzz. Notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, par exemple.
Oh mon Dieu.
Y a beaucoup de journalistes sportifs qui font du sensationnalisme en rapport avec... là, j'ai lu, avant d'arriver, un tweet d'un journaliste qui disait « Mbappé, Hakimi, ce soir, fin de la bromance. » Voilà, parce que comme ils s'affrontent, franchement, ça c'est du, c'est, ça veut rien dire.
Ouais, c'est vilain.
Non, mais on s'en fout. Franchement, c'est pas ça du journalisme.
C'est vilain.
Voilà, moi, c'est pas comme ça que je le ressens. C'est vrai que je suis un petit peu déçu par cette évolution-là, mais en même temps, c'est une évolution du fait qu'il y a l'arrivée de ces réseaux sociaux qui permettent aussi à certains qui ne sont pas journalistes de le devenir. Donc voilà.
Et en plus, ça attire le titre, ça attire le clic quand c'est écrit en gros comme ça. C'est exactement, clair que c'est déplorable, c'est... mais c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement maintenant.
Exactement, et je trouve ça un petit peu déplorable. Moi, je suis c'est fou de dire ça, j'ai 41 ans, mais je suis déjà de l'ancienne époque en fait. Voilà, par rapport au journalisme sportif, c'est clair.
Alors, quand on est commentateur pour les Girondins, puisque tu fais que les Girondins, on a discuté en off et puis on le sait, tu n'es pas toujours d'accord avec ce qui se passe avec tel joueur. Est-ce que tu es obligé de lisser ou alors tu te laisses aller et t'as peut-être un couteau au-dessus de la tête qui te dit non.
Absolument
il faut pas.
Alors, il se trouve que j'ai Gold FM pour lequel je travaillais avant, puisque ça a changé, ça a été racheté. Gold FM était la radio qui appartenait aux Girondins pendant longtemps, jusqu'à l'arrivée des Américains. Les Américains sont arrivés, ils ont dit nous la radio on n'en veut plus, donc vous pouvez partir. Mais quand nous on était encore la radio du club, je ne vais pas dire qu'on faisait attention, mais c'est vrai que si on disait quelque chose de... qui était négatif sur le club, souvent on pouvait avoir un mail, on pouvait... Alors, jamais... moi, je me suis jamais rien interdit, ça c'est clair. Je me suis jamais interdit de dire quelque chose sur un joueur.
Tu l'as toujours, voilà,
je l'ai toujours eu. D'accord. Et si on me disait ça, ouais, tu devrais pas le dire, je disais, je m'en fous, c'est ma liberté d'expression. Je le dis quand même, voilà. Et si on n'est pas d'accord, on me vire. Enfin, je veux dire, mais mon métier, c'est journaliste. C'est pas journaliste pour les Girondins. Voilà, attention, parce que moi j'aime le club, mais je veux dire, je veux quand même pouvoir avoir un œil critique sur ce qui s'y passe,
C'est ce qui a été un petit peu dommage au Gironais pendant un temps, parce que moi j'intervenais sur une autre radio qui avait une émission le vendredi soir, je ne sais pas si tu te rappelles, KCC je pense déjà, et je me souviens qu'on avait, reçu des gens des Gironais, notamment Florent Brunet, et j'ai arrêté ce jour-là d'intervenir avec eux parce qu'il ne fallait pas parler de tel sujet, il fallait parler de ce sujet, parce que les Girondins n'étaient pas bien, il ne fallait pas envenimer la chose. Tu le vois comment ça ?
Non, enfin moi, ce n'est pas ma façon de voir. Je veux dire, quand ce n'était pas bien, quand il y a eu des problèmes avec les Américains, j'étais le premier à dire qu'il y avait un gros problème de gestion dans le club. Quand Frédéric Longuepée s'était mis les supporters à dos, j'ai été le premier à dire qu'il se passait un grave problème à la tête du club. J'ai été le seul journaliste autorisé à entrer au château du Haillan avec les ultras le jour où ils sont allés faire une manifestation. D'ailleurs, le fameux patron Longuepée n'était pas là ce jour-là. Il n'était pas dans le château, c'est bizarre. Donc j'ai une relation déjà de confiance parce que, avant tout d'être un journaliste, toutes les personnes qui sont aux alentours du club, et notamment les supporters, savent que je suis un supporter du club, avant tout. Voilà. Donc je veux avoir mon œil critique et en même temps je vais supporter, mais ce n'est pas pour autant que je vais dire oh là là, c'est magnifique, c'est superbe. Et d'ailleurs, pour le livre, le club a mis du temps avant de le prendre dans les boutiques parce que je pense qu'ils se sont sentis un petit peu pas assez mis dans la boucle sur le livre, ils auraient voulu peut-être m'enlever deux, trois trucs, deux, trois phrases et tout ça.
Tu leur as pas demandé l'autorisation, quoi que ce soit, sur le livre. C'est toi qui le fais, quoi.
Non, non, je voulais pas demander d'autorisation, parce que quand vous demandez une autorisation, forcément, à un moment donné, c'est normal. En même temps, je me mets à leur place. Moi qui travaille dans la communication, si j'étais directeur de la communication des Girondins de Bordeaux, j'aimerais regarder ce qui se passe.
Savoir tout.
C'est normal. Donc ça, on peut pas... Et je veux dire, tous les clubs de football aujourd'hui verrouillent leur communication, font attention à ce qui sort, etc. Bon, dans le livre, je crois que c'est Jean-Pierre Papin qui dit, dans une des phrases, qui dit « ce club méritait mieux ou mérite mieux ». Et ça, cette phrase, on me l'a reproché. Bon, voilà, c'est pas non plus, c'est pas extraordinaire. Et puis le livre, est en vente dans les boutiques du club. Apparemment, ils se vendent bien, ils sont contents. Donc voilà, mais je veux garder clairement cette liberté. Si j'ai envie de dire que ça va pas, ça va pas.
Avant d'aborder la pause et puis la deuxième partie sur ton livre, je vais te poser une question. Toi qui t'as le sang marine et blanc, cet épisode, longue épée, les Américains, tu l'as vécu comment ?
Très mal. Ça nous a fait très mal. Ça a fait très mal au club. Avant d'en vouloir aux Américains, j'en veux un petit peu à M6 d'être parti un petit peu trop rapidement. Je pense qu'il aurait fallu un petit peu plus fouiller.
Tu penses qu'ils ont eu le choix ?
Je pense qu'ils voulaient très vite se débarrasser du club qui commençait à être un gouffre. Enfin, faut se dire quand même que chaque année, les Girondins, notamment M6, remettaient au pot pour que les Girondins passent la DNCG. Ils ont dû dépenser des millions d'euros pour que Bordeaux puisse être à zéro avant chaque fin de saison. Donc, je crois qu'à un moment donné, ils en avaient marre. C'était la seule ligne rouge du bilan d'M6 et du groupe RTL, l'allemand, à qui appartient M6. Donc, ils ont voulu vendre et ils ont vendu un petit peu trop vite, malheureusement. Donc, j'en veux plus à M6. Et bon, j'en veux beaucoup aux Américains, mais j'en veux plus à M6 d'avoir peut-être un petit peu lâché le club trop vite.
Avant peut-être de parler du livre et de faire une pause, est-ce qu'il y a un style, Julien B, en tant que commentateur sportif ? C'est quoi ton style à toi ? C'est comment on te reconnaît ? Comment on est sûr que c'est toi ?
Il n'y a pas de style à proprement dit, si ce n'est que je hurle sur les noms des buteurs quand il y a des buts. Voilà, ça c'est mon style. Avant j'avais un style, c'est-à-dire que quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un style, je commentais très vite, je parlais très vite, j'arrivais à dire une action en 2 secondes. Et c'est vrai qu'on m'a fait remarquer que... Alors j'avais des supporters qui me disaient « Ouais, moi j'adore quand tu commentes comme ça, c'est génial !» D'un côté, j'avais des gens qui n'étaient pas forcément fans du foot qui me disaient « Ouais, moi quand tu commentes, je comprends rien. » Ah, je me suis dit, il faut réussir à...
Il y a
un juste milieu. Donc c'est là que j'ai réussi à travailler sur faire en sorte qu'un match, il faut le timer en fait et être dans le bon tempo avec ce qui se passe sur le terrain.
Julien B, c'est le commentateur des gens sur la route, parce que moi qui suis sur la route souvent, on n'arrivait pas pour aller Gironais, et c'était Julien B. Et c'est vrai qu'au début, ça criait un peu.
Ouais, ça allait vite.
Tu comprenais pas tout, toi, Alain.
Déjà que je comprends pas tout.
Campus Bordeaux 88.1.
On arrive à la mi-temps de l'émission. Tout de suite, on va écouter un peu de musique avec le titre Paloma de Aléla Diane. Et on revient juste après avec notre invité du jour, Julien B.
Every light upon the shoreline was out. I gazed out into the deep blue as the thunderous waves roared. Sky electric with boom and rumble.
Campus Bordeaux
88.1. Radio Sunda 88.1'desiniz.
Il est 13h33, on est en direct et vous écoutez Sport Campus. On est toujours avec notre invité du jour, Julien Bay. On parlait des Girondins et peut-être on va aborder la deuxième partie de l'émission avec les fameux livres, Alain.
Ouais, ben Julien, c'est la voix, mais c'est pas que la voix aussi, c'est l'écrit. C'est vrai que c'est, je l'appelle la Bible des Girondins. T'en as fait quatre, ça fait quatre livres,
oui.
C'est ça?
Oui.
Le premier part de quand et pourquoi?
Alors le premier, il part, je pense que c'est aux alentours de 2010. En fait, quand on a su que le stade Lescure allait être laissé, lorsqu'on a su que les Girondins allaient aller vers un nouveau stade et qu'un nouveau stade allait être construit, je me suis dit, ouais, il faudrait peut-être que je regarde un petit peu cette histoire autour de Lescure et il faudrait peut-être que je fasse des chroniques radio pour parler des anciens joueurs, parler de matchs qui se sont déroulés. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu. Et en fait, plus je commençais à chercher, plus je me disais « Waouh !» Là, en fait, il y a des choses que j'avais jamais entendu parler. Et je pense qu'il y avait des choses que personne n'a jamais entendu parler, ou à part ceux qui les ont vécues dans les années 30 ou 40. Donc je me suis dit « Il faut peut-être un peu plus approfondir. » Donc j'ai commencé à approfondir. Là, j'ai commencé à me dire « Non, mais moi, tout seul, c'est impossible d'écrire tout ça. » Et il se trouve que j'ai un ami, un collègue, Laurent Brun, qui est un journaliste lui aussi, journaliste indépendant. Je suis allé le voir, je lui dis écoute, je commence à regarder, je lui dis je sais que toi tu collectionnes pas mal de choses sur les Girondins, je lui dis je me rends compte qu'en fait il y a une histoire notamment des années 30-40 très intéressante, il faudrait remettre un petit peu à la surface, est-ce que toi ça te dirait de me suivre dans cette aventure? Il m'a dit bah écoute je vais regarder, et puis comme moi il a dit ah ouais d'accord ok. Et donc là on a tilté qu'il se passait quelque chose notamment autour du parc Lescure et de son histoire incroyable. Et donc on s'est revus, on a commencé à dire bon bah écoute toi tu fais cette partie, moi je fais cette partie, on a commencé à écrire, et on s'est retrouvés avec 650 000 signes, donc une épave comme ça, un pavé comme ça, et on s'est dit bon comment on peut faire pour faire comprendre à un éditeur qu'on veut sortir un livre aussi colossal. Donc on est allé voir les éditions Sud-Ouest, qui est voilà, l'éditeur le plus important du coin. On est allé voir donc Marie Cardino, qui s'occupe notamment de la partie sport. On est arrivé, on a posé notre pavé, paf ! Voilà, on a écrit ça et on aimerait l'éditer. Donc ils ont été assez étonnés, assez circonspects par tout cet ouvrage. Donc ils ont regardé et puis au bout de quelques jours ils nous ont rappelé pour nous dire bon écoutez nous on veut vous éditer mais déjà on va vous éditer en plusieurs fois, on n'éditera pas tout le livre et il y a des chapitres qui ne nous intéressent pas. Donc nous avec Laurent on a eu un petit peu les boules hein, pour parler vulgairement, c'est vrai, parce que nous on voulait sortir cette anthologie pour pas se faire avoir par d'autres journalistes, mais en même temps après on s'est dit il y avait que nous pour être aussi fous pour faire ça. Donc on s'est dit ok très bien on va le partager, ça nous a fait un peu mal au cœur mais on va le partager, et on a décidé de sortir notre premier livre tout seul en auto-édition, qui était toute la partie des supporters qui n'avait pas été gardée par la maison d'édition. Donc on l'a sorti, on l'a auto-édité nous-mêmes, Supporters à les Bordeaux. C'est un livre qui ressemble un peu à mon quatrième en format, un genre format BD un peu, qu'on a sorti avec des images sur les supporters. On a raconté toute l'histoire de la naissance des groupes de supporters au Girondins. Donc on est parti de la toute première banderole ultra et on est allé jusqu'à aujourd'hui. On a expliqué aussi pourquoi ça n'a jamais marché au virage nord. On a expliqué aussi lors de la transition pourquoi le nom avait été choisi de René Galis. Il y a eu un vote du reste et on a expliqué tout ça pourquoi. Et ça a été pour nous le lancement en fait de cette anthologie. Puis ensuite avec Sud-Ouest on a sorti le deuxième livre qui était Lescure et les Girondins. Donc là c'était vraiment, on expliquait ce que Lescure représentait pour les Girondins de Bordeaux et 27 légendes qui ont été liées, des Girondins liées au stade. Le troisième livre, lui, était sur Lescure 80 ans. Donc là, c'était lors des 80 ans du stade en 2018. On a sorti donc les grands événements. Donc là, on a retracé les grands événements. Alors forcément, 80% sont pour les Girondins de Bordeaux. Les 80% sont des matchs des Girondins. Mais on a parlé de rugby, puisqu'il y a eu beaucoup de matchs de rugby à 13, à 15. On a parlé aussi des concerts. Il y a eu les concerts, évidemment, de Johnny Hallyday, de Dire Straits. On a parlé aussi de choses insolites, comme par exemple, il y a eu un match de handball à 11. Parce que voilà, au tout début du handball, il se jouait à 11. Jouer sur herbe, c'était un match France-Espagne qui s'est déroulé à Lescure. Voilà, donc on a retracé toute cette histoire, je pourrais pas vous la faire, on n'a pas assez de temps, mais si vous voulez, à la fin de tout ça, On a pris un petit peu de temps, lui et moi, pour voir ce qu'on voulait faire pour la suite. Laurent a décidé de sortir un quatrième livre seul sur les insolites de Lescure, c'est-à-dire un petit peu, on avait lancé ça avec le handball, du coup, lui, il a voulu parler du tunnel, des histoires de tunnel, des histoires, voilà, il y a eu de la motocross, il y a eu un énorme rendez-vous des témoins de Jéhovah qui s'est passé à Lescure, voilà, donc il raconte tout ça dans ce livre. Bon, moi, c'était pas trop ma tasse de thé, hein. Moi, comme je te le disais tout à l'heure, Alain, moi, c'est le foot, c'est les Girondins, même si on a parlé de rugby, de vélo, c'était ça qui était pour moi la primeur. Et de mon côté, je me suis dit, ben, moi, je vais me recentrer sur les Girondins et j'ai envie de faire découvrir aux plus jeunes 100 légendes du club. Donc, voilà comment est né ce quatrième livre.
J'ai toujours pas fait mon deuil de Lescure, et toi ?
Moi non plus. Moi non plus parce que le Matmut Atlantique, le stade René Galis, si nos amis Jutra écoutent, n'a pas l'âme qu'avait Lescure, voilà, tout simplement. Alors évidemment, on compare un stade qui est né en 2015 ou 16 avec un stade qui a été créé en 1938 et qui a vécu des choses extraordinaires, donc c'est incomparable. Un stade qui est devenu donc très peu, il y a très peu de temps, monument historique, qui a été le premier stade au monde à ne pas avoir de poteau de soutenance pour le toit. Un stade qui est tellement à l'architecture particulière qu'il est présent au MoMA de New York. Donc voilà, c'est incomparable. C'est incomparable, mais moi, je fais pas... Non, j'ai pas fait le deuil de Lescure encore. Et si je peux y aller de temps en temps pour voir du rugby, j'y vais rien que pour l'atmosphère. Non pas, j'aime le rugby, mais pour l'atmosphère de Lescure.
Pour ceux qui n'ont pas envie de ton livre, je l'ai sous les yeux là et on voit qu'il y a vraiment les stars des Girondins. On voit Zizou, on voit Gigi, on voit Tigana, on voit Dropsy, on voit Trésor, enfin tout ça. Tu peux nous en parler 5 minutes de ce bouquin parce que je crois que le but actuellement c'est d'essayer de faire revivre les Girondins de Bordeaux et je crois que ce bouquin il peut les faire revivre.
Alors le but pour moi dans ce livre, c'était pas d'écrire des anecdotes sur tous les joueurs. Il y a 100 portraits, donc il a fallu en choisir 100. Et dans ces 100 portraits, j'ai voulu un petit peu étaler toute l'histoire du club des années 30 jusqu'à aujourd'hui, puisque les deux derniers qui y sont Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé. Alors, il se trouve qu'ils sont à la Coupe du Monde, qu'ils sont en demi-finale ce soir, on croise les doigts pour eux, et qui, pour moi, sont dans ces 100 joueurs parce qu'ils font rayonner le club à l'international maintenant. Ils sont quand même des joueurs qui jouent au Barça et au Real. Donc, je voulais parler de ces deux joueurs-là. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont très, très anciens. On peut parler des Manticidor, Ortus Berea, parce qu'il faut savoir que les Girondins, à la base, vous avez tous vu le logo des Girondins et les Marinés Blancs eux-mêmes qui communiquent sur la date de 1881. Il faut savoir que cette date n'est pas la date de création du FC Girondins de Bordeaux, elle est la date de la création du club Omnisport. Ensuite, il y a eu notamment des sections foot qui sont nées dans les années 1910. Mais le stade, le club, pardon, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est arrivé dans les années 30, fin des années 30, 36-37, première année du club, qui s'appelait Girondins de Bordeaux FC du reste. Après, ça a changé plus tard. Mais c'est vrai que c'est, cette date de 1936-37, pardon, elle est importante parce que il y a un entraîneur qui est, hein, puisque il y a des bonus dans ce livre. Il y a 100 joueurs, mais il y a également 5 entraîneurs et 3 présidents.
Artigas, non ?
Et Artigas, alors, même mais bien avant Artigas, il y a Benito Díaz qui est arrivé, qui était un hispano-basque et qui a fui la guerre en Espagne et qui est arrivé à la guerre civile. Il est arrivé ici et comme c'était un grand entraîneur espagnol, il a essayé de créer une équipe au fort accent espagnol. Il est allé chercher des jeunes joueurs, notamment Artigas qui est venu jouer. Et il a rapatrié des gens comme Ortiz Berea, Manticidor, tous ces gens-là sont dans le livre. Et ces Espagnols, en fait, qui sont à la base de la création du FC Girondins de Bordeaux. Donc, pour moi, en fait, il y a une transmission. Ce livre, je vais dire modestement, c'est pas de la grande écriture. Voilà, je vais rester modeste, mais il y a dedans la possibilité pour les jeunes supporters des Girondins de Bordeaux d'apprendre l'histoire de leur club. Et pour moi, c'est hyper important.
Voilà. Mais avant que Louis, qui est dans le starting block pour te poser une question, te demander, moi quand je vois juste la préface de son livre, je pleure. Quand je vois les Girondins maintenant, je me dis, est-ce que ça va revenir ça un jour ?
J'espère. C'est vrai que c'est très compliqué. Après, il ne faut pas oublier que les Girondins ont traversé des moments extraordinaires, mais des moments terribles aussi. Oui. C'est cyclique en fait. Hein. Quand on regarde l'histoire du club, c'est par décennies, il y a des décennies qui ont été terribles. Les années 70, par exemple, Bordeaux n'était pas terrible. Alors certes, on a vu l'émergence d'Alain Giresse, mais dans le jeu, c'était pas...
C'était les années Meno, ça, non ?
Voilà. Il y avait Christian Montes, il y avait Meno également. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas extraordinaire comme décennie. Après, il y a les années 60, Nantes, qui sont sûrement la décennie où les Girondins sont les plus forts, les plus forts de France. Mmh. Mais ne gagnent rien, sont toujours deuxième, finalistes de la Coupe de France. Voilà. Après, évidemment, il y a les années 80 avec l'arrivée, l'émergence de Claude Béze, forcément, qui a fait de ce club sûrement la plus grosse place du foot français et ensuite européen à la fin des années 80. Et puis les années 90, qui ont été plutôt compliquées au départ. Et puis voilà, faut pas, voilà, c'est cyclique en fait. Donc là, on est dans un petit coup de moins, un gros coup de moins bien. Mais il y en a eu dans l'histoire en fait.
C'est pas la première fois que les Girondins sont en deuxième division.
Non, c'est pas la première fois.
Non, ils y avaient été pas administratif, c'était pas.
Oui, dans les années 90, la dernière fois. Voilà, mais sinon, si on retrace le temps, ils ont déjà fait plein de fois le yo-yo, hein, les Girondins.
Moi, ce qui m'ennuie, c'est pas le résultat sportif. On en parlait tout à l'heure off. Julien me disait, moi je me régale moins, mais lui me disait, je me régale parce qu'il y a une osmose qui s'est fait, on voit des mecs qui se battent sur un terrain, dans les tribunes, on retrouve un public. Mais moi, je réalise qu'on est toujours qu'en Ligue 2, je réalise qu'il y a 14 000 spectateurs au stade, et je réalise que si je regarde ce qu'il y a sur le terrain, il n'y a pas de stars. Et moi, j'ai toujours rêvé avec des stars au Girondin.
Eh oui, mais là, on est en Ligue 2, donc avoir des stars, c'est compliqué. Mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'ils arrivent quand même avec... ils ont commencé la saison avec quasiment 80% de joueurs qui jouaient en N3 la saison dernière. Ouais. Et c'est ces joueurs-là qui nous ont portés au début. Parce que si on est au deuxième du championnat, ensuite, bien sûr, il y a eu les arrivées d'Ensimba, Barbé, etc., qui nous ont portés sur la fin de la première partie de saison. Mais les 10 premiers matchs, on va dire que c'est quand même ces jeunes-là qui nous ont portés, qui ont été chercher des résultats à Rodez, etc., et qui ont fait qu'on a été pendant un petit temps... premier du championnat, faut pas l'oublier. Donc oui, c'est vrai qu'on rêve plus comme dans les années 2000 avec ou 2008-2009 avec Laurent Blanc, etc. On voit plus ça, c'est clair. Mais ça va revenir parce que je le redis, c'est cyclique au Girondins de Bordeaux. Faut juste attendre un petit peu. Je pense que ça va revenir.
Le mois de janvier va être primordial. Vas-y.
Ah oui, par contre.
Ouais, oui. C'est clair, les Girondins, c'est une question de temps. Moi, j'avais deux questions. La première, c'était, on en parlait tout à l'heure. Vous disiez que vous faisiez et commentateur et éditeur, si j'ai bien compris, ou écrivain. Je ne vais pas me leurrer, je sais que moi c'est mon rêve, mais il y a d'autres personnes, je pense, dans l'université ou qui nous écoutent, qui aimeraient aussi faire ce métier de commentateur sportif. Est-ce que le métier de commentateur seul suffit à, je sais pas, payer le loyer ?
Si vous commentez à la télévision, oui. Si on commente à la télévision, je pense qu'on a, de quoi se payer. La radio, très franchement, peut-être sur le service public, et encore, ça ne doit pas être non plus des salaires mirobolants. Mais oui, à la télévision, je pense. Ouais, à la télévision, on doit vivre correctement.
D'accord. Oui. Et ma deuxième question, qui est un peu plus compliquée pour vous, si jamais vous devez choisir un match que vous avez commenté, qui vous a marqué et qui vous marquera toujours, ce serait lequel ?
Alors, ça va être très simple. Je l'ai déjà dit plein de fois. C'est le Bordeaux-Bayern de Munich, en fait, en Ligue des Champions en 2009. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que c'était le jour de mon anniversaire. Et que les Girondins ont battu le grand Bayern de Munich, hein, qui était... Il y avait déjà Müller, hein, qui jouait dans cette équipe. Et il y avait des grandes stars, Philippe Lahm. Voilà, c'était déjà le grand
allemandes.
Bayern. Voilà, les gloires allemandes. Et les Girondins ont réussi à battre cette équipe le jour de mon anniversaire. Je commentais ce match avec Alain Bonnave, qui était un entraîneur à la Brette, qui est décédé malheureusement aujourd'hui. Et j'ai une pensée pour lui et pour toute sa famille. Et c'est vrai que ça a été un moment incroyable. En plus, à la radio, il m'avait fait quelque chose, une petite surprise avec des auditeurs, des amis, mon fils qui était tout petit à l'époque, qui m'avait fait une petite surprise. Donc voilà, il y avait tout l'environnement autour de ce match. Puis on commente un match de Ligue des Champions. Quand on se le dit aujourd'hui, on fait « Waouh, c'est vrai, c'était incroyable ».
Mais si t'enlèves tout l'environnement qui avait autour de ton anniversaire, le Milan AC, c'était pas plus fort ?
Je ne l'ai pas commenté le Milan AC, j'étais petit. J'étais au stade avec mon père, mais j'avais 14 ou 15 ans. Donc
c'était Alain qui
le commentait sur 8FM à l'époque. Donc forcément, je me souviens de ce match-là en tant que supporter. Après, j'ai des souvenirs en tant que supporter, évidemment. Quand ils ont gagné en 99, ils sont rentrés dans la nuit à l'Escure à 3h du matin, j'y étais. Voilà, j'avais 17 ans, j'y étais, 17-18 ans, j'y étais avec des potes. Mais en termes de commentaires sportifs, ce match de Ligue des Champions, c'est pour moi, c'est le plus beau souvenir.
Ouais, c'est ce qui me rend des fois rageux parce que j'étais ce match contre Milan. J'ai vécu quelque chose que je crois que dans ma vie je ne vivrai plus. Quoi. C'était hors du temps. Quoi.
Il y avait une chanson qui avait été faite à l'époque de Milan.
Ah, peut-être.
Une chanson qui passait même à la radio avec Dugarry, Zidane, Tolo.
Ah ouais,
je me souviens
c'était
pas.
C'était l'équipe de deux héros, je ne sais pas quoi. Moi, je me rappelle de ça.
Parce qu'il y en a eu des chansons sur les Girondins.
Mais ce qui s'est passé dans les tribunes ce jour-là, c'était. Je ne sais pas, je ne peux même pas l'expliquer parce que. On était 30 000 ou 33 000, mais on n'était qu'un. C'était un truc de fou. Et j'ai un deuxième souvenir, c'est quand il a été champion de France, qu'on est tous partis au stade à 1h du matin.
Ouais, c'est ça. C'est 99. C'est 3h du matin.
Fédounou qui avait claqué au Paris Saint-Germain. Et moi, je me souviens, j'habitais à Parampur, mais j'ai dit tant pis, j'y vais. Quoi. J'ai bossé le lendemain, j'en avais rien à faire. Ce qui veut dire que le football, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté aussi, malheureusement. On vient de voir encore avec les célébrations où ils ne sont pas toujours très corrects. Mais ça peut réunir pas mal de monde. Et quand tu le dis, là, les journalistes qui font leur buzz sur Twitter, sur ci, sur Cassurmer, opposer Mbappé à Hakimi, à quoi ça sert? Parce que là, on oppose, c'est pas Mbappé à Hakimi qu'on oppose. Il faut regarder plus loin.
Non, c'est faux.
Il faut regarder beaucoup plus loin. Et ça me gêne, quoi. Ça me gêne parce que moi, j'ai lu Marwan Chamakh qui dit, bon, mais là, je vais encourager le Maroc parce que je suis Maroc, mais ma formation, c'est la France et tout, si j'en surveille là. Il faut garder cette image-là. Et moi, ce que je voudrais, c'est que le football, ça en reste ça. Et toi, qui es commentateur sportif, qui va dans tous les coins de France, je suis sûr que des fois, dans les tribunes, tu entends des choses qui ne devraient pas exister, quoi.
Oui, malheureusement, mais après, tu sais, il y a des idiots partout, donc et ça a toujours existé. Dans notre premier livre que j'ai coécrit avec Laurent Brun, on parlait donc des supporters, comme vous expliquez, et on raconte des histoires qui se sont déroulées. Voilà, pas forcément des Girondins, mais par exemple, il y a eu des histoires entre Bordelais et Nantais, parce que ça a été pendant un moment le derby le plus chaud de France, les Bordeaux-Nantes. Et c'est vrai que, de tout temps, depuis qu'il y a des supporters, il y a eu de la débilité. Mais je pense que quand même à Bordeaux, il faut le dire, on est quand même bien lotis, on a des super supporters, antifascistes.
Voir des matchs, les ultras, ils sont impressionnants.
Voilà, et puis ne pas oublier qu'ils ont été les garants de l'institution quand même en se battant par rapport à tout ce qui s'est passé. S'ils n'avaient pas été là, peut-être qu'on n'aurait pas eu ces changements de direction. Peut-être que ça, un petit peu, c'est vrai que ça a été parfois trop loin, je pense que ça a influencé quand même le fait que le fait qu'ils s'entendent plutôt correctement aussi avec Gérard Lopez. Ça a toujours été important que les ultras s'entendent bien avec le président.
C'est lui qui a eu des gros problèmes
avec Trio. Ouais. Hein, faut pas, d'ailleurs, Jean-Louis Trio est dans le livre aussi. Faut pas l'oublier. Il y a eu des gros problèmes avec Jean-Louis Trio, notamment au début des années 2000. Et puis ça s'est tassé, et puis à la fin, le jour de son départ, il va craquer un fumigène dans le virage sud. Donc voilà.
Mais Trio, c'est une autre époque.
C'est une autre époque. C'est sûr que là aussi, ça a changé. C'est peut-être le dernier des présidents un petit peu. Il y a Aulas encore aujourd'hui.
Bénévole.
C'est peut-être le dernier président un petit peu comme ça, qui avait la gouaille, qui avait son franc-parler. Moi, j'ai fait des émissions avec Jean-Louis Trio. Je ne vous dis pas les coulisses. C'était incroyable. C'était une gouaille légendaire.
Tu as un bon rapport avec le virage sud?
Très bon rapport, oui, je m'entends très bien avec Florian Brunet, avec Laurent Perpignan, les responsables des ultras, on s'entend très bien, on se connaît depuis très longtemps en plus. Donc
je ne peux pas te poser la question qui fâche alors?
Ça dépend, moi on s'entend bien, mais après je dirai ce que je pense.
Moi je pense que je suis admiratif devant les gars du virage sud, le boulot qu'ils font, je vois encore ce qu'ils ont fait contre Pau, là, c'était fabuleux. Mais ils ont peut-être des gens au niveau, à leur tête, qui sont en train de les dénaturer, qui sont en train de les faire mal aimer, on va dire.
Ah oui? Ouais. Bah, tu sais, ces gens qui sont à la tête, ils sont là depuis 25 ans ou 30 ans.
Ouais, mais il faut savoir passer la main, des fois.
Oui, c'est sûr, il faut savoir passer la main, mais je pense que ça se fait en douceur. J'ai vu beaucoup de nouvelles têtes là, chez les responsables des ultramarines récemment.
Bonne nouvelle alors.
Donc après c'est normal. Mais je pense que c'est aussi le mouvement ultra qui veut ça, c'est très hiérarchisé. Et en même temps, parfois on peut pas être d'accord avec tout sur la façon de communiquer. Après, il y a le fait aussi, et encore une fois, je reviens là-dessus, c'est qu'il y a les réseaux sociaux qui font
c'est
que
pas
aujourd'hui,
ouais.
Aujourd'hui, on met la lumière. Enfin, je veux dire, Florian a peut-être, je lui ai déjà dit, il a peut-être trop tweeté à un moment donné, il a peut-être trop réagi, mais
on va y venir.
Mais en même temps, ils ont cet amour du club, cet amour que j'ai aussi, et parfois, eux, ils se sont permis des choses que moi je me serais pas permis, ça c'est sûr, mais je pense que c'est ça aussi qui a fait basculer à un moment donné, un, l'opinion publique, et deux, le fait que King Street s'est dit on va partir de là parce que sinon ça va péter, etc. C'est pas bien d'en arriver jusqu'à cette extrémité là, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, si le club retrouve un petit peu de sérénité, je crois que c'est un petit peu aussi grâce à ça.
Mais est-ce que tu cautionnes le fait que El Trutra, c'est bien, on aime son club, mais il faut être aussi réaliste et être logique. Tu as cité le nom, Florent Brunet. Hein. L'émission où je t'ai parlé tout à l'heure, il nous interdit de parler de ça et de ça et de ça, autrement il ne parle pas. Je le contacte sur Twitter pour venir ici à mon micro, comme tu es venu toi, comme il y a beaucoup de gens qui viennent. Ok, ça se passe bien, on discute, et puis au bout d'un moment, je lui dis que je n'étais pas trop d'accord sur le truc de Lopez, et là il me défonce.
c'est sa personnalité, c'est sa façon d'être. Enfin voilà, moi j'ai pas à juger sa façon de.
Ouais, mais ça dénature ce mouvement qui est sain, qui est propre.
Bah, ça dénature. Non, tu peux pas dire qu'une seule personne dénature tout un mouvement qui regroupe des milliers de personnes. Mais en même temps, c'est vrai que parfois, il y a le jusqu'au boutiste, je suis d'accord avec toi, mais il défend. Tu sais, nous, on a eu des passes d'armes, notamment avec Florian Brunet sur notre premier livre avec les supporters, parce que forcément, comme on disait tout, un petit peu ce qu'on pensait des supporters, il y a eu des choses qui n'ont pas plu. Et notamment, quand on a dit, sur notre livre, on a dit René Galis, épiphénomène sur le stade. Non pas qu'on remette en cause le nom du le René Galis en lui-même, parce qu'il était. Pour ceux qui auront le livre, c'est une immense star du club, René Galis, mais en même temps.
Moi, je ne l'ai pas compris. Pourquoi Galis ?
Alors, moi, je peux t'expliquer pourquoi. Je trouve que c'est totalement le reflet et les valeurs du club, René Galis. Mais maintenant, c'est la façon dont ça a été fait qui peut-être être remise en cause. Maintenant, c'est fait. En plus, c'est officieux, c'est pas officiel. Mais c'est vrai qu'on s'est un petit peu. En même temps, c'est ça. On n'est pas tous d'accord, mais ça ne veut pas dire. On aime tous le même club, donc on va, à un moment donné, on trouve un terrain d'entente qui est le FC Girondins de Bordeaux.
On va terminer la Coupe du Monde. Ça dit quoi pour toi ?
On va terminer la Coupe du Monde.
Sur la Coupe du Monde.
Ah, ouais. On termine sur la Coupe du Monde. Ok. Le pronostic, je pense que ça sera plus dur que ce qu'on peut penser pour l'équipe de France ce soir. Tout dépendra si Tchouaméni et Rabiot Tchouaméni sera là, mais Rabiot
c'est pas sûr.
Et
ouais.
Rabiot et c'est qui le dernier qui
c'est de la com des, c'est de la com ça il sera là.
C'est Koundé je crois qui était
non non hier il y avait un autre joueur qui était pas
Upamecano
voilà Dayo Upamecano
voilà je pense que tout dépendra si ces joueurs sont là, mais apparemment bon ils devraient être ils étaient un petit peu grippés, mais bon apparemment ça devrait aller pour. Mais ça sera pas si simple que ça. La finale.
Ils sont un peu bouillis.
Si jamais on passe,
c'est l'Argentine.
Autant vous dire que les Argentins, ils ont un travers de la gorge 2018. Donc ça sera très, 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 très dur.
Voilà. C'est pas la coupe à Messi ?
Moi, ça m'énerve un peu. Hein,
le pénalty hier soir encore.
Ouais, mais après, il est très bon, Messi. Hein, mais moi, j'en ai marre. Là, on en fait trop sur lui. Hein.
Bah, c'est peut-être cette dernière
c'est
Coupe
sa
du
dernière,
Monde. Bon,
c'est Messi, machin,
on a fait pareil avec Ronaldo.
Il a marqué 5 buts et 4 sur le pénalty.
Moi, j'aurais juste peut-être une toute petite question, vu qu'on approche de la fin. Moi, j'ai 19 ans. Donc, les premières fois où je me suis vraiment intéressé aux Girondins de Bordeaux, c'était à l'époque des Carasso, des Gourcuff. Donc, leur dernier fait d'armes, les Malcolm allaient à la limite. Qu'est-ce que vous diriez pour, par exemple, que je mette ce bouquin sous mon sapin à Noël ?
Ah, très, très bonne question. Alors, comme je l'ai dit, pour moi, ce bouquin, c'est une transmission. C'est la possibilité pour les plus jeunes, et même pour les plus vieux, de se rappeler des bons souvenirs, pour les plus jeunes d'apprendre à connaître l'histoire du club, et notamment à travers ses 100 légendes. Je rappelle, il y a aussi 5 entraîneurs et 3 présidents, des présidents iconiques, évidemment, vous les reconnaîtrez. Et puis, ces joueurs, j'avais vraiment envie de les mettre en valeur. Et tu parlais de Gourcuff, il y est, Chamac,
Zidane
il y est,
aussi, part,
évidemment, hein. Zidane, il y est.
Il y a Dominique Farjean aussi, ou pas ?
Il y a Philippe
Farjean. Philippe.
Pourquoi je dis Dominique ?
Il y est, oui. Philippe
Farjean, c'est son frère.
Philippe Argent il y est. Alors c'est vrai que beaucoup de gens aussi m'ont dit ah mais pourquoi un tel y est pas et pourquoi lui il y est, moi je l'aurais pas mis, etc. Bon mais c'est comme ça, mais en tout cas c'est la découverte de 100 joueurs extraordinaires qui ont marqué la légende du club.
Merci Julien quand même d'être venu à notre micro.
Mais merci de l'invitation, c'était avec plaisir.
On en a appris un peu plus et puis on se dit rendez-vous samedi je crois pour le Marathon Radio, c'est ça ?
Oui voilà, alors à partir de vendredi midi jusqu'à samedi midi, Radio Campus fait un Marathon Radio de 24 heures de direct non-stop avec des émissions même toute la nuit, etc. L'idée, c'est que ça soit tout le temps en direct et animé par des gens derrière le micro. Et il y aura un épisode spécial de Sport Campus, donc ça sera samedi
matin. La dernière
heure. Non, c'est l'avant-dernière heure. Voilà.
Avec Morgane Latrille, qui nous revient du Marathon au New York.
Voilà, de 10h à 11h. Et donc, Alain a fait le choix d'inviter une marathonienne. C'est plutôt bien vu pour un marathon radio. Quoi.
Je vois toujours bien. Dernier petit truc, on prend 30 secondes. On peut le trouver où, ton bouquin ?
Alors, le bouquin, il est évidemment en premier lieu dans les boutiques du club des Girondins de Bordeaux, sur la boutique en ligne ou sur les boutiques physiques qui sont au stade et à rue Sainte-Catherine. Sinon, c'est www.legirondin.com, le Girondin au singulier.
Merci, Julien.
Merci à vous.
Campus Bordeaux, 88.1.
À nouveau, un grand merci Julien B et merci à la fine équipe, à Louis, Nicolas et Alain. Comme vous l'avez dit, on se retrouve samedi matin pour un nouveau Sport Campus et bien sûr, ne manquez pas le Marathon Radio. Ça démarre vendredi 16 à midi et ça se terminera samedi 17 à midi. C'est à présent la fin de ce Sport Campus pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. On va se quitter avec un titre qui s'intitule If This Is That Is Missing de Get Well Soon et on vous souhaite un excellent après-midi sur nos ondes.